Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sicavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse, vous le savez très bien, le rendez-vous c'est de lundi à vendredi à partir de 11h. Nous y sommes et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le gouvernement togolais procède à la distribution des kits scolaires aux filles scolarisées dans le primaire, le collège et le lycée. La ministre secrétaire générale de la présidence du conseil et gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, Sandra Blamba Johnson, a officiellement lancé mardi à Djémeni dans le Raro la campagne nationale. Au total, plus de 100 000 élèves provenant de 800 localités réparties dans 64 cantons à travers tout le Togo bénéficieront chacune d'un kit scolaire complet comprenant des fournitures essentielles à la réussite scolaire. Le tout pour un coût global d'environ 603 millions de francs CFA. L'initiative inscrite dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel, financé par la Banque mondiale en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, s'aligne sur les efforts déployés par les pouvoirs publics dans le domaine de l'accès à l'éducation, particulièrement des jeunes filles. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons bien sûr en parler dans cette émission Club de la Presse et nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 11 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Michel Yao Tzadza. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Oh, pas la grâce de Dieu, ça peut aller.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Ouara les Vainqueurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ambroise Yao Konzo, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis l'intérieur et l'extérieur du pays. Je voudrais profiter de cette occasion d'abord, dans un premier temps, saluer cette rentrée qui s'annonce pour nos enfants et demander aux usagers de faire extrêmement attention. Nous allons y consacrer un titre, certes, mais il faut que déjà ceux qui sont dans les taxis, les gros porteurs, les camions de transport de sable, les titamans, les motocyclistes, chauffards, qu'ils retiennent leur ardeur, qu'ils soient conscients qu'ils ont leur vie d'abord sur la moto, ils ont la vie des enfants aussi sur la traversée des voies et de préserver la vie des gens. Être pressé, courir et aller chercher des passagers, ce n'est pas ça l'essentiel. Préserver la vie doit être l'essentiel. Second point, il y a une situation qui se produit actuellement dans une microfinance qui, je crois, s'appelle la fructueuse. J'ai été plusieurs fois interpellé sur la gestion qui est faite dans cette boîte. Mais je me dis que je vais finir mon enquête avant d'y revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-là où on ne comprend rien. Certains, le cas du papillon à Venoux, le monsieur a disparu un matin avec les 400 millions. Heureusement, l'État togolais est rentré dedans et la FUSEC a pris le contrôle. Ils ont tout récupéré, ça a repris. Il y a d'autres cas. Mais ici, quand ça commence, si nous ne lançons pas l'alerte, ça peut encore ressembler aux cas précédents qui ont fait dilapider l'argent des épargnants. Donc, pour le moment, nous le disons pour que les choses puissent se résoudre d'elles-mêmes en attendant que nous sortons un dossier sur ce cas. Je parle bien de la fruitueuse, la COPEC, la fruitueuse.
D'accord. Merci, Ambroise, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Merci d'être là. Et le jeune DP aussi est là, je ne dirais dynamique. C'est bien, Magloire, Kevin Teklou. Bonjour.
Ah oui, bonjour, frère Pascal, comment vous allez?
Ça va pas, la grâce de Dieu. Je ne sais pas si on vous appelle quand même par ce nom, jeune DP.
Oh, ben, vous savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire que la jeunesse n'a jamais été un délit. Un DP, c'est un DP. Si vous l'avez peut-être à un âge beaucoup plus jeune, ce n'est peut-être pas plus grâce. L'essentiel, c'est de savoir faire ce qu'on a à faire et de le faire surtout bien. Alors là, DP jeune, DP âgé, c'est un DP.
C'est l'essentiel, c'est ça. C'est un DP. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Flambeau des démocrates, qui est dans les kiosques, justement, ce matin.
Alors, peut-être si vous permettez, je profite pour faire un clin d'œil, sinon un bonjour à deux années. J'ai nommé le premier Dimas Dikodo, le directeur de publication du Forum de la Semaine. Où qu'il soit, depuis où il nous écoute, je lui envoie mon bonjour et des ondes positives. Et après lui, je dis bonjour également à Sas Gaou, qui nous manque tant. Où qu'il soit également, je lui dis bonjour et bien des choses à la famille.
D'accord, moi je n'oublierai pas Loïc Lawson aussi, là où il se trouve actuellement en nous écoutant, et je lui fais un petit coucou. Et je sais qu'il nous écoute souvent, c'est justement des gens qui nous écoutent souvent, il est branché. Voilà. Merci hein, d'être avec nous. Et là, vous avez souvenance que le jeudi passé, nous avons traité de l'affaire Sounou avec cette affaire du licenciement de 42 employés. Nous avons reçu ici Emmanuel Forson qui est de Sounou Bank et nous avons promis quand même que nous allons recevoir aussi l'autre partie, c'est-à-dire les syndicats, il y a Saint-Bank et aussi Sinassure. Nous les avons alors en studio avec nous. Il y a Monsieur Nyamiku Kodzo. Monsieur Nyamiku, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais très bien.
D'accord. Mais malgré la situation.
Oui, malgré la situation, nous nous portons bien. Parce que jusque-là, la situation ne nous a pas encore ébranlés. Mais nous cherchons tout simplement à faire connaître et à expliquer au mieux cette situation aux opérateurs économiques afin qu'ils comprennent en réalité ce qui se passe. Si des gens de Sounou Bank sont passés à votre niveau, c'est du bluff parce que c'est eux qui tiennent la lanterne et ils vont faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce qu'ils disent est vrai, alors qu'ils vous cachent une certaine réalité que vous ne comprenez pas et vous ne connaissez pas.
Alors, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Justement, cette réalité, nous allons en parler tout de suite, puisque c'est vrai, dans ce genre de situation, chacun prêche souvent pour sa chapelle, mais ce qui est sûr, vous donnerez aussi votre vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du Saint-Banc, hein, c'est bien ça?
C'est ça.
D'accord. Et Monsieur Bomboma et Pakidam, oui. Bonjour.
Bonjour.
Je pense quand même que je n'ai pas écorché le nom.
Non, du tout, c'est bon.
D'accord.
C'est bon, ça peut aller.
D'accord. Et vous êtes alors le secrétaire général adjoint de Saint-Banc, session banque, c'est bien ça?
Exactement.
D'accord.
Exactement.
D'accord. Alors, monsieur Nyamiku Kodjo, oui. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans vos rangs? Puisque le secteur bancaire, depuis un moment, nous avons commencé par écouter parler des remous au sein alors de ce secteur avec ce licenciement de 42 personnes au sein alors de Sounou Bank. Nous en avions parlé le jeudi dernier. Qu'est-ce qui se passe concrètement, monsieur Nyamiko?
Merci beaucoup, Monsieur Pascal, de m'avoir posé cette question. Ça nous permet de mettre en lumière tout ce qui se passe. Mais en 2-3 minutes, permettez-moi de vous procéder en quelques lignes une situation sommaire de ce qui se passe. C'est depuis le 22 août 2025 que sur les chaînes nationales et internationales, les radios locales, etc., que vous apprenez cette information que 42 personnes ont été mises sur l'État. Les 42 personnes ont été licenciées à son banque. Donc c'est ça qui a fait déborder le vase. Mais pourquoi licencier 42 personnes ? Alors que vous vous dites ce que vous portez très bien, pourquoi licencier alors 42 personnes ? Quelle est la faute commise par ces 42 personnes ? Ont-elles commis, par exemple, des fautes lourdes, des fautes graves ? C'est en ce moment-là, quand quelqu'un commet une faute lourde, faute grave, c'est en ce moment-là qu'on peut prétendre à un licenciement. Mais, suivant, par exemple, vos remarques et les indications, je crois bien que Sunu Bank tient toujours la route. Si Sunu Bank tient toujours la route, où est le problème des 42 personnes ? Quand on licencie pour motif économique, c'est que nous disons que la société est complètement à terre. La société est complètement à terre, c'est que peut-être ailleurs, on peut dire qu'il y a retrait d'agrément. Il y a retrait d'agrément pour non-conformité aux normes nationales et internationales de fonctionnement. On vous retire l'agrément pour mauvaise gestion parce que vous avez conduit la structure à la banqueroute. La structure tient bon. La structure est là. Vous préservez alors quelle forme de direction ou de fonction alors que vous mettez 42 personnes sur la touche. Les 42 personnes, avant que les 42 personnes ne soient mises sur les bancs de touche, je crois bien qu'il y a eu des discussions internes. Des discussions internes en ce sens que les délégués du personnel ont pris sur eux de sonner dans l'oreille, de sonner sur la sonnette d'alerte en informant le président du conseil d'administration sur la mauvaise gestion qui est pratiquée. Alors, ils évoquent quoi ? Comme raison qu'il y a une masse salariale en trop qui s'augmente d'année en année. S'il y a masse salariale, donnez-nous donc les éléments nécessaires afin d'apprécier si vraiment il y a eu masse salariale. Donc, la réponse est sèche en ce moment-là que vous êtes irresponsable. Nous demandons à avoir les documents. Puisque nous sommes en collaboration, nous sommes des partenaires, donnez-nous donc le document qui vous permet de dire que la société ne marche pas, qu'il y a une masse salariale qui gonfle la charge de la société. En ce moment, la société ne peut plus tenir. Nietzsche, on vous dit, on vous balaie de la main, on dit, vous ne pouvez pas avoir ces documents et que vous êtes irresponsable en demandant de pareils documents. On est allé loin dans les négociations pour dire, bon d'accord, s'il en est ainsi, devenons ou bien cherchons l'arbitre qui nous met deux à deux,
qui nous départage,
donc la commission bancaire devrait intervenir en ce moment. La commission bancaire est intervenue. La commission bancaire, selon par exemple ses résultats, la commission bancaire dit non, que le problème n'est pas lié à la masse salariale. C'est un problème de gouvernance.
C'est-à-dire de gestion, vous voulez
dire ? De gestion, on veut dire. De problème de pillage systématique des ressources nationales et économiques, de nos épargnants, de la population togolaise, à d'autres fins. Parce qu'ils ont mis un système d'exploitation dont on va aller tout à l'heure. Je vais passer la parole à mon frère Pakidam pour qu'il vous donne un tout petit peu d'exemple sur le système d'exploitation qui est mis en place pour exploiter comment ? Rapatrier les fonds sur d'autres cieux, avoir fait par exemple des crédits à des proches, à des parents, à des amis irrécouvrables, que la commission bancaire a monté un dossier de plus de 28 milliards à provisionner. Donc, je voudrais laisser la parole.
Oui, voilà, justement. Monsieur Bombama, c'est vrai que quand nous avons reçu Emmanuel Forson dans ce studio, il nous a parlé alors d'un plan de restructuration qui a été lancé même d'ailleurs depuis, et que c'est ceux qui sont même d'ailleurs licenciés aujourd'hui sont au courant alors de ce plan alors de restructuration. Est-ce que finalement, ce plan de restructuration, ce n'est pas l'application par rapport même d'ailleurs à ce licenciement, ce n'est pas juste l'application alors de ce plan de restructuration.
Merci Pascal. Moi, je ne crois pas qu'il y a un plan en tant que tel. S'il y a un plan, tout comme mon camarade l'avait dit tout à l'heure, il devait nous le faire savoir. Et autour d'une table, discuter et trouver des solutions, en fait. Ou bien on vous dit, non, ce que vous avez proposé, ça ne va pas. Proposez-nous plutôt ceci, ou bien nous proposons ceci, et d'un commun accord, on s'entend, et puis, je crois que ça va passer. C'est Sunu Bank, les dirigeants de Sunu Bank ou Sunu Group sont, je dirais, sont pas des gens de parole. Parce que nous nous sommes transportés jusqu'à la direction du travail et on a contesté le motif qu'ils ont évoqué et ils n'ont jamais accepté qu'on conteste ce motif.
C'est-à-dire le motif économique.
Le motif économique. Parce que nous, nous savons que c'est un pillage. C'est un système installé pour piller la banque.
Pourquoi et vous dites que c'est un pillage?
Un pillage parce que, je peux donner un exemple, il y a un crédit en souffrance de 1,3 milliard au Niger d'un compatriote du DG, par exemple. Et le monsieur a scellé là-bas pour payer, il est persécuté pour payer les 1,3 milliard. Le DG, ah, puisqu'on est compatriote, moi je vais rapatrier ce crédit d'1,3 milliard, je te donne, et après, tu payes ici. Sachant très bien que la personne n'a pas la capacité de payer. On rapatrie ce crédit, par exemple, ici. Sous une banque débloque 1,3 milliard pour payer le crédit là-bas. Rapatrie la dette ici. Et de surcroît, on accorde une traite avalisée de 2 milliards à la même personne, à ce même compatriote. Alors que le directeur général n'a pas le pouvoir de céder 50 millions d'accords de crédit. Voyez-vous? Ensuite, ils accordent encore un traite de 400 millions à la même personne que eux-mêmes ils sont allés à tapamer, empocher pour distribuer, pour se partager entre eux. Et le crédit est resté impayé. Ce n'est pas parce que j'ai un compatriote, un mauvais payeur, que je vais rapatrier ces crédits ici pour payer. Si vous avez fait une mauvaise gestion, il faut l'assumer. Ce n'est pas le personnel qui devait payer le prix. Et c'est ce qui se passe dans presque toutes les banques de la place actuelle. Et j'interpelle les camarades délégués d'ouvrir les yeux. Et c'est quand ils ont su que les délégués sont vigilants ici, qu'ils sont allés même jusqu'à licencier le secrétaire général de ces banques, le secrétaire général d'une institution. Et je ne crois pas aujourd'hui que nous sommes prêts à baisser les bras. Nous ne sommes pas prêts de baisser les bras. Et nous avons approché les autorités qui nous ont appelés, mais ils ne se sont pas montrés de bonne foi. Ce qui fait que le dialogue là s'est avorté.
Ah mais justement parce que nous savons que tout récemment, il y a le ministre de la fonction publique qui a pris en main votre dossier et il devait y avoir même une négociation ou du moins une médiation entre les deux parties. Mais finalement, qu'est-ce que ça a donné cette négociation?
Oui, cette négociation n'a rien donné, d'autant plus que nous, nous respectons les autorités. Ils nous appellent même dimanche, on est chez eux pour discuter. On les respectait, mais sous nos banques s'en foutaient. Il ne fait qu'à sa tête. Il continue, le ministre de l'économie a interdit d'envoyer des lettres de licenciement par le biais des huissiers chez les gens à la maison ou de l'adresser au personnel. Mais ils s'en foutaient. Ils ont engagé des huissiers qui sont allés même persécuter les gens jusqu'à chez eux. Donner la lettre de licenciement aux enfants des employés. Vous imaginez? Je n'ai pas signé un contrat de travail avec mon enfant ou bien avec un huissier. Il va falloir me l'envoyer par ce biais. Le ministre a dit non, cessez de faire ça. Oh, il s'en foutait, il continue. La dernière fois, quand nous sommes levés de la table de négociation, qu'est-ce qui s'est passé? On était là, en train de discuter avec les ministres, quand on a eu une alerte qu'ils sont en train de défoncer le bureau du secrétaire général de CEMOC.
Et c'est quoi le motif?
On ne sait pas. Et le ministre a dit non, appelez-les, dis-leur de ne pas faire ça. Mais ils ont insisté, ils ont fait. C'est des gens qui traitent nos ministres de petits ministres et qui se permettent de faire ce qui leur passe par la tête. Ils s'en foutaient de nos autorités. Alors on dit non, d'accord. Si on a un arbitre qui devait nous aider à pouvoir nous comprendre et que vous ne respectez pas, de toute façon, ce n'est pas nous qui allons rester à la table pour parler. Nous allons nous retirer et ils vont nous faire face. C'est pourquoi j'interpelle ici tous les camarades d'être prêts, de se tenir en alerte. Nous les appellerons incessamment pour une réunion qui va nous permettre de voir beaucoup de choses et puis surtout clair.
Mmh. Alors, M. Nyamiko, déjà quand on prend la procédure alors du licenciement,
c'est ça.
Comment vous comprenez justement cette procédure? Est-ce que tout a été respecté?
rien n'a été respecté dans cette procédure de licenciement. Lorsqu'il y a licenciement pour motif économique, nous le disons tantôt, c'est parce que s'il y a licenciement pour motif économique, nous comprenons que la structure qui licencie est complètement à terre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'activité. Et en ce moment-là, on dit qu'il y a licenciement pour motif économique. Soit c'est un retrait d'agrément, soit c'est une administration provisoire qui se réinstalle. Maintenant, à propos d'une administration provisoire, on ne licencie pas. On donne des directives précises au nouveau directeur qui est là. Il y a, un cahier de charge qui lui est transmis. Ok, voici la nouvelle donne, la norme sur laquelle tu vas fonctionner. Mais je crois bien que c'est comme ça. Maintenant, on licencie pour motif économique. Quels sont les droits même? C'est des droits élémentaires qu'on est en train de payer. Parce que nous nous sommes dit, bon, le gouvernement a demandé qu'il n'y ait pas de licenciement. S'il n'y a pas de licenciement, donc cela veut dire que les camarades doivent être sur le lieu du travail.
Alors, quand vous parlez alors de droits élémentaires,
oui,
concrètement, c'est quoi?
Je vais arriver là. Lorsque le gouvernement dit qu'il n'y a pas de licenciement et que nous avons préconisé qu'il y ait des départs volontaires, qu'il y ait donc une négociation aboutissant à des départs volontaires, c'est ce que nous avons négocié. Donc, jusqu'à ce que mon camarade disait tout à l'heure que nous avons continué les négociations avec les ministres, qu'est-ce qu'on a obtenu? On n'a rien obtenu. C'est en ce moment-là qu'il continuait à faire de sa guise. Il continuait à faire de sa guise. Si on devait laisser, on devait être tout, on devait mettre tout à table, faire table rase, et revenons sur la norme idéale qui constitue à payer les droits légaux. C'est-à-dire quoi? Il y a l'indemnité de fin de carrière, et il y a par exemple les congés non jouis, et il y a la prime de fidélité. Et nous demandons à ce que les gens soient pris en charge à au moins 2 ans en assurance. Maintenant, ces droits élémentaires dont je parle et que je m'en vais vous dire, c'est qu'ils paient une indemnité de fin de carrière de licenciement. De licenciement. Donc c'est comme si toi-même, tu as quitté la banque, tu as démissionné, et c'est ce droit qui s'en va calculer. Ils te paient encore 1 mois de salaire. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est une insulte. À des gens qui leur reste 2 ans, 3 ans, alors que si nous prenons le tableau d'amortissement, par exemple, des avancements, des classes, en 2027, il y aura au moins 30 du personnel qui ira à la retraite. Pourquoi ne pas attendre des périodes pour dégraisser progressivement les employés et atteindre l'objectif voulu? Pourquoi? C'est des droits élémentaires qui ne répondent à rien. Et maintenant, on paie des droits élémentaires et des gens qui ne savent pas lire dans les lignes, on vous dit qu'on a payé de 8 mois à 68 mois de salaire. À 66 mois de salaire. Qu'est-ce que ça dit? Pour ceux-là qui ne comprennent pas, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont fait un calcul. Et c'est un taux. Ils sont en train de parler d'un taux de paiement. Pourquoi diviser la masse totale payée par un salaire et vous dire qu'on a payé 8 mois à 66 mois de salaire? Pourquoi? En réalité, lorsque vous payez des droits à un personnel, c'est sur des fiches, voilà, comme des bulletins de paye, vous leur déclarez tout ce que vous avez payé afin que la personne puisse se rendre compte s'il y a erreur ou bien s'il n'y a pas erreur.
Bien détaillé.
Un détail. Maintenant, vous vous permettez de virer tout ce que vous voulez pour venir dire à l'opinion nationale et internationale que vraiment vous avez payé, en vous glorifiant à tort que vous avez payé. C'est des droits élémentaires qui ne répondent à rien.
D'accord. Oui, mais c'est pour le moment. Et finalement, c'est quoi les critères sur lesquels on s'est basé pour licencier, même d'ailleurs, ces 42 personnes? C'est vrai qu'au départ, on parlait de 70, et après tout, c'est qu'en 8, mais par après, c'est 42. Mais c'est quoi les critères?
Non, on ne sait pas. Ce sont eux qui le disent. Que ça a commencé de 70, c'est arrivé à 52, et puis c'est 58, et puis c'est 42. Eux seuls connaissent les critères sur lesquels ils se sont basés pour fixer. Puisque à moins de 2 ans, 3 ans, il y a au moins une trentaine de personnes qui partent à la retraite. Pourquoi ne pas offrir un départ volontaire au personnel et puis combler ce vide-là que vous voulez? Ils ne veulent pas. Vous savez, la banque, c'est quoi? La banque ne fabrique pas de l'argent. C'est l'argent des déposants que nous prenons et que nous retroussons sous forme de crédit. Donc, une fois, quand il y a problème, quand on dit qu'il y a un problème économique, d'abord, quand vous regardez de ce côté, il y a deux aspects. Premièrement, peut-être, le crédit ne se rembourse pas. Le crédit que vous octroyez, ça ne se rembourse pas. Là, il y a des problèmes. Et quand un déposant arrive pour prendre son argent, comment vous allez faire? Parce que quand vous distribuez le crédit, n'importe comment, et sans garantie, sans assurance, je vais vous donner un exemple. On nous dit par exemple que l'État sénégalais a besoin d'argent. Et on a envoyé 12 milliards au Sénégal. 12 milliards ôtés de leur capital qu'ils disent qu'ils ont amené, qu'ils ont généré sur place. Hein.
12 milliards, vous dites?
12 milliards. Ils n'ont même pas, ça dit que ce n'est pas qu'ils ont amené l'argent, ils ont généré le capital là, ici. Ils sortent 12 milliards envoyés au Sénégal. L'État sénégalais, et on ne sait pas si c'est lui qui est le particulier ou le compte du particulier sur lequel l'argent a atterri. L'argent atterrit sur un compte de particulier. 12 milliards. Et aujourd'hui, c'est en souffrance. La commission bancaire demande de provisionner. Encore pire, quelqu'un qui a une société unipersonnelle d'un capital de 1 million a eu accès à un crédit de 11 milliards à son banque. Donc moi, je trouve que les difficultés ne se passent pas au niveau du personnel. Parce que quand il parle de critères, on est quitté de 70, arrivé à 50 quoi et à 42. Moi, je suis désolé de leur dire que peut-être qu'ils ne font pas très bien leur travail. Que les Togolais sont plus intelligents. Je vais le dire comme ça. Les Togolais sont plus intelligents. Ils sont capables de diriger cette banque. Je ne sais pas combien ils ont amené, combien ils ont dilapidé. Sur nos banques, avait traduit un des DG au tribunal. Comme quoi, il a fait un mauvais crédit de 8 milliards. C'est sur nos banques, sur nos groupes, hein. Aujourd'hui, même, ils ont fait un mauvais crédit de 28 milliards. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et avant de venir, les gens ont fait des traites avalisées qui ont eu des difficultés. Sono a exigé qu'on renvoie ces personnes-là avant qu'ils ne font apport de leur capital. Et on a renvoyé ces gens-là. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils font des traites avalisées de plus de 4, 5, 6 milliards. Et ceux qui ont fait ça sont toujours là, sans procédure judiciaire, sans sanction. Comment on peut apprécier ça? C'est le personnel?
D'accord. Oui, M. Domingo. Oui.
Merci, M. Pascal. À ce niveau, je peux ajouter que nos frères, les 42, sont déjà intègres. Dans leur intégrité, ils prouvent à l'opinion et à la direction générale le travail bien fait. Parce qu'on vous demande de faire du sale boulot et vous refusez. On vous demande, par exemple, de faire une étude sur un crédit de 1 milliard. À apporter, à donner à quelqu'un et vous refusez que le risque est mauvais, alors on vous met en attendant, on vous met en veilleuse en attendant le jour de votre licenciement. Donc c'est tout ce personnel qui voit clair, qui soit intègre, qui refuse de sale boulot qu'on met à la touche parce que vous ne permettez pas qu'ils avancent sur le mauvais chemin. Et c'est ça le problème. Regardez un tout petit pays. Aujourd'hui, nous attendons et nous voyons qu'il y a encore la manière d'exproprier, la manière de vider la banque, qu'il y a par exemple des factures, de gros montants de factures d'assistance technique sur le bureau ou bien dans un coffre du directeur financier. Lesquelles factures? Il y a des factures de la Digitech, c'est-à-dire mais une société qui s'installe et s'en va louer le matériel informatique. Et à combien il rembourse? 1 milliard par an.
Un milliard par an.
La Digitech. Il y a par exemple des factures SICH, c'est-à-dire Sumo Investment Holding, que vous payez aussi. Il y a des factures de Sumo Business. Seulement, par exemple, le logo de Sumo là, qui est là, vous payez.
Ils appellent ça assistance technique. Quelle technique?
Vous payez une somme colossale là-dessus. Vous voyez les moyens mis en jeu pour rapatrier les fonds. C'est ça.
D'accord. Oui, Ambrose.
Oui, merci à tes invités. La dernière fois, on était avec leur patron ici. Et nous, journalistes, nous, on ne ménage personne. C'est vrai que nous sommes là pour la justice et l'équité et la vérité.
C'est ça.
Et Et moi, j'aime souvent défendre la justice sociale. J'ai des questions peut-être qui ne vont pas les plaire, mais je vais y aller quand même. Parce que j'en ai tiré pour les autres qui étaient là ici. Parce que eux aussi, ils ont fait preuve de mauvaise gestion, de dilapidation des fonds, des choses qui ne disent pas leur nom. On n'a rien contre les étrangers. Les Togolais aussi dirigent des banques ailleurs. Mais on ne peut pas se lever comme ça et renvoyer des gens. Maintenant, moi, je voudrais m'en prendre à eux.
Très bien.
D'abord, première préoccupation, c'est que vous êtes employé dans une structure et que l'employeur décide de vous licencier pour des raisons soit économiques ou des raisons qui sont propres à eux. Vous êtes une quarantaine. Et si vous négociez votre départ, comme vous l'avez dit, parce que le départ volontaire, ça peut se négocier. Vous vous dites que si c'est sur ce plan-là, vous pouvez vous entendre. Maintenant, je me dis licenciement et départ volontaire. Bon, vous-même, vous maîtrisez la nuance. Si moi, on me licence, ou je suis licencié dans une entreprise, mais j'ai mes droits, dommages et intérêts, tout cela qui sera afférent, les avantages seront afférents. Quand je suis licencié, en droit,
oui.
Ça c'est clair quoi.
C'est clair.
Moi ça m'avantage le plus que de négocier mon départ. Ça c'est la manière dont moi je le comprends. Ça c'est un. De deux, on vous a licencié, ils sont partis, c'est un patron qui est là, et il vous entend sur les médias. Vous dites, le responsable, vous m'excusez, hein, les responsables ne sont pas de bonne foi, et ils ont pillé, et il y a des termes qui sont propres à vous et qui est normal parce que vous êtes en colère.
Allez-y.
Mais ils vont se dire, mais ces gens-là qui disent ça, parce qu'on pensait qu'on peut encore reprendre ces gens-là et quand ils vont venir, alors que vous êtes dans votre droit, parce que c'est vous qui êtes évincé, c'est vous qui êtes en colère, c'est vous qui avez les yeux rouges actuellement.
Oui.
Ils ne comprendront pas ça. Que bon, ok, nous préférons payer les avantages, tout ça là, pour nous libérer de ces gens-là. Parce que vous, votre première exigence, c'est de retourner dans la banque. La question, aujourd'hui, dans 2 ans, 30 personnes de vos collègues
oui.
ou 30 employés vont partir à la retraite. Est-ce que, selon moi, il ne serait pas judicieux de négocier, parce que 2 ans, c'est pas loin,
c'est ça.
De négocier quand même sur ce licenciement-là.
Mmh.
Vous en tenez au licenciement, vous allez à l'inspection du travail, vous allez à la justice et vous rentrez dans vos droits avec les dommages, les intérêts, les avantages. En tout cas, c'est une vue, peut-être que moi je ne maîtrise pas de votre côté. Puis dans 2 ans, les gens vont partir à la retraite. Peut-être qu'il y a des avantages qui vont vous échapper. Est-ce que vous ne trouvez pas que le fait de... Parce que le gouvernement a déjà entériné ça. Avec ce... Nous, on connaît sa ministre. Hein. Vous, peut-être ils vont vous chanter des chants de signes, tout ça là. Mais c'est qu'eux, ils ont déjà entériné parce que pour eux, c'est... À cause de vous, la banque va en partir pour que d'autres employés partent. Eux ne voudront pas. Le gouvernement ne voudra pas. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à encore continuer les négociations? Ou s'ils décident aujourd'hui de vous reprendre, vous allez encore retourner là-bas avec les mots que vous avez.
D'accord. Monsieur Yamikou.
Oui. Merci, monsieur le journaliste, pour tes très belles questions que vous posez. Il est bien vrai que nous étions quelque part et nous avons dit. Négocions à l'amiable les choses, les départs volontaires à la retraite, les départs volontaires, puisque l'État même a pris la décision de dire qu'il n'y a pas de licenciement. Nous nous en tenons à ce que les collègues, à ce que les employés eux-mêmes disent les départs volontaires. Et d'ici 2027, il y aura au moins 30 personnes qui vont partir à la retraite. Donc, si nous nous sommes convenus de ces départs volontaires, cela veut dire que nous allons mettre une autre plateforme de négociation. Et c'est ce que nous disons. Cette plateforme de négociation comporte quoi? Ça comporte l'indemnité de fin de carrière normale parce que la société a externalisé ces droits-là dans une compagnie d'assurance vie. Et à chaque année, ils évaluent le montant à payer à celui qui est admis à la retraite. Donc c'est ça que nous voulons. Qu'ils payent en fin de compte, au lieu de dire qu'ils ont payé une IFC, l'indemnité de fin de carrière, qui est différente de celle qui est localisée
dans une banque, parce que, en réalité, dans leur entendement, ils ne voulaient pas payer cette IFC-là, parce que cette IFC est supposée être supérieure à ce qu'ils ont payé. Et maintenant, comme le dit Androi, il y a quoi ? Il y a d'autres indemnités, c'est-à-dire d'autres droits, tels que le salaire. Ils disent qu'ils vont payer un mois de salaire. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont payer un mois de salaire. Maintenant, lorsque nous nous disons départ volontaire, négocié, il n'y a pas de licenciement, il faut payer l'IFC normal, il faut payer la prime de fidélité, il faut payer les congés non jouis, il faut payer aussi deux années d'assurance. Mais bien sûr que nous sommes à l'extérieur. Et ce que nous avons demandé, s'ils avaient accepté, on sera en train de négocier et les camarades seront dans l'intérêt.
Il y a certains parmi vous qui ont déjà accepté.
Je veux ajouter quelque chose. Ce que le camarade dit, c'est très pertinent. Moi, je demanderais, si on nous appelle, on retourne. Parce que c'est nous qui avions l'œil là-bas pour pouvoir sauver l'épargne de nos compatriotes. C'est nous qui avions l'œil là-bas pour sauver l'argent que les nationaux ont déposé. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. C'est quel argent ils sont en train d'utiliser ? C'est l'épargne de la population qu'ils sont en train d'utiliser. Si nous ne sommes pas là-bas. Nous, on nous appelle, on retourne. Aujourd'hui, si vous avez des dépôts, de gros dépôts là-bas, allez-y pour chercher à retirer, voir si vous allez avoir ça.
D'accord.
Allez-y voir.
D'accord. Oui, Michel. D'accord. Ambroise, plutôt Magloire.
Bon, moi, je suis un peu curieux, hein. La dernière fois, nous avions annoncé une rencontre entre nos invités et les deux ministres. Aujourd'hui, ils nous ont dit à demi-mot, effectivement, qu'ils y étaient. Je me rappelle que lorsque nous étions autour de cette table avec la direction de Sonu Bank, nous journalistes, même on avait un peu du mal à maîtriser les contours des sujets qui ont fait l'objet justement de cette rencontre. Est-ce que, en deux mots et de façon plus claire, vous pouvez dire aux Togolais ce dont il a été question entre vous et les ministres du gouvernement ? Puisque vous disiez tout à l'heure que c'est en pleine discussion que l'information était venue comme quoi on était en train de défoncer les portes de vos collègues en question. Ça voudra dire que quelque part, Sonu Bank ne respecterait pas l'autorité justement qu'incarnent ces deux ministres. Alors, si tel est le cas, à considérer également que Sonu Bank n'agit pas au Togo, n'opère pas au Togo sans l'aval du gouvernement et qu'ils auraient agi de la sorte. Quand on met tout ceci ensemble, qu'est-ce que ça vous dit ?
Monsieur Nyamiko ?
Merci beaucoup pour votre question si pertinente. Nous étions en table de négociation et donc à la table de négociation, c'est en somme au premier jour que les ministres nous ont fait comprendre que l'État a dit qu'il n'y a pas de licenciement. Entendu qu'il n'y ait pas de licenciement, cela veut dire que les employés devaient être en classe ou bien au service. OK ? Et c'est ce que nous avons demandé au ministre. Est-ce que les ministres ont intimé l'ordre ? C'est un ordre qu'il faut maintenant intimer. Parce que si le gars fait à sa tête, nous, en tant qu'autorité politique, investis un représentant du pouvoir central, du pouvoir politique, vous intimez l'ordre en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je crois bien qu'ils n'ont pas intimé l'ordre. Et nous sommes là avec les ministres en train de dire que non, ce que nous voulons maintenant, qu'il n'y ait pas de licenciement pour motif économique, ce que nous voulons, c'est les départs volontaires. C'est ce sur quoi nous sommes en train de discuter. Et à la troisième rencontre encore, et c'est à cette troisième rencontre que nous apprenons que le directeur est en train de défoncer les portes des partants et encore la porte du secrétaire général. Puisque le secrétaire général de Saint-Banque, c'est la société dans laquelle il travaille. On est en train de défoncer ses portes. Nous sommes en négociation et vous vous passez outre les consignes données par les autorités politiques pour aller défoncer des portes. Or, qui défonce les portes ? Qui défonce les portes ? Est-ce qu'on appelle un huissier ? Est-ce qu'on appelle un parent du travailleur avant d'aller défoncer les portes ? Il y a préjudice en ce moment-là. Si je vous dis que j'ai perdu 25 millions, qu'est-ce que vous allez me dire ? Voilà le problème.
D'accord. Merci. Merci, monsieur Bonbonman. C'est vrai. Aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que vous cherchez ou qu'est-ce que vous demandez, j'allais dire. Est-ce que vous demandez plutôt la réintégration de ces 42 personnes? Qu'est-ce que vous voulez concrètement?
Oui, la réintégration totale de ces, de ces 42 personnes. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Parce que nous avons compris que la plupart qui ont été licenciés, il y a 90% des femmes qui sont dans les 42. 90% des femmes qui sont des mères de famille. Ça dit, papa n'est pas là. Et c'est elle qui assume tout.
Oui, allez-y.
Papa est perdu.
Allez-y.
C'est maman qui assume tout. Donc, aujourd'hui, on n'est pas content que la plupart des femmes qui sont intègres dans cette banque... Je vais vous donner des exemples ici. Des femmes. La banque n'a même pas sécurisé les sous qui sont chez les caissiers. Ils leur adressent une lettre de licenciement. La lettre de licenciement, le caissier reçoit ça le vendredi. Il le reçoit le vendredi et il a 300 millions dans sa caisse. Il revient le lendemain ou lundi remettre et la caisse. Si c'était vous, vous allez faire comment? Ou bien si quelqu'un qui n'est pas honnête, il va faire comment? Deux autres questions, 92 millions. On leur a signifié leur licenciement. Ils sont revenus lundi suivant pour remettre les sous. Et ces gens-là, ce sont ces gens honnêtes-là qui sont victimes aujourd'hui. Comment vous l'appréciez?
D'accord. Et ce qui est sûr, je sais que nos auditeurs auront des questions à vous poser tout de suite. Et déjà, quand il va sonner midi, nous allons leur donner la parole. Ils auront des questions à vous poser. Mais toutefois, nous allons continuer quand même avec notre débat ici au Club de la Presse. Et là, vous aurez justement le temps de répondre aux questions alors des auditeurs. Merci surtout d'être passé chez nous. Nous allons aborder notre premier sujet. Par rapport à ce débat. Et Michel, c'est vrai, j'en parlais au titre, enfin dans l'introduction alors de mon justement de cette émission, le gouvernement togolais qui procède à la distribution des kits scolaires aux filles scolarisées dans le primaire, et le collège et le lycée. Et c'est la ministre, secrétaire générale de la présidence du conseil et gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, Sandra Blamba-Johnson, qui a officiellement lancé mardi à Djémeni dans le Raro la campagne nationale. Et vous êtes revenu bien sûr sur le sujet, vous écrivez bien sûr sur le sujet projet Swed plus une initiative salutaire pour retenir les filles à l'école. Autre journal qui s'intéresse bien sûr au sujet, c'est le journal Le Tonnerre. Le journal Le Tonnerre qui écrit Swed plus démarrage de la campagne nationale de distribution de kits scolaires. Alors Michel, tel que vous le dites, c'est un projet salutaire, c'est ça?
C'est un projet salutaire, vraiment un projet louable, parce que vous savez que les élèves dans certains millions de difficultés, et surtout la jeune fille. Et si le gouvernement a pu bon prendre la BAC du projet SWIT plus en 2022, C'est dans l'optique de pouvoir assister donc ces filles-là à l'école pour pouvoir les retenir. Parce que ce projet, vous savez qu'il existe dans d'autres pays depuis 2015. Ce projet-là était exécuté dans un certain nombre de pays. Et le Togo qui a pris part... Donc, qui a intégré le projet en 2022. Maintenant, c'est la phase opérationnelle qui a permis donc de commencer la distribution de ces 100 000 kits qui coûtent, vous l'avez dit aussi, 600 millions, un peu plus de, légèrement plus 600 millions de francs CFA. Ça va permettre quand même d'aider les jeunes filles défavorisées à pouvoir continuer les études dans la sérénité. Ça a mobilisé hier plusieurs personnalités. Vous avez vu les images l'ancien premier ministre était là, le ministre Nguyen était là.
C'est avant-hier, bien sûr.
Oui, avant-hier, mardi. Le ministre de l'enseignement secondaire, de primaire et secondaire était là aussi. Et la représentante de la Banque mondiale pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest était là. Donc, cette mobilisation nous fait comprendre que le gouvernement prend donc cette opération au sérieux. Et si ça peut aider donc à augmenter le taux, accroître le taux de fréquentation des jeunes filles, ça va impacter donc la qualité et les résultats donc que les autorités attendent à la fin de l'année scolaire. C'est de bonne guerre parce que vous savez que ces dernières années le Togo a beaucoup misé sur la jeunesse. Si vous allez dans les groupes mères, de CP1 jusqu'au CM2, la plupart le pourcentage est en faveur des jeunes filles, même au collège la tendance est maintenue. Donc ça veut dire que on veut que la jeune fille vraiment ne reste pas derrière. Elle doit être aux côtés de l'homme pour continuer à quand même avoir une éducation de qualité. Je pense que cette opération là le gouvernement doit veiller à ce que périodiquement ça puisse avoir lieu pour que les filles quand même soient d'une manière ou d'une autre.
D'accord, merci beaucoup Michel. Oui, Magloire, c'est vrai que quand on parle des défavorisés, on parle des démunis, il n'y a pas que les filles, il y a aussi des garçons, mais tout compte, quand on suit justement cette actualité, on comprend que les filles sont plus favorisées par ce projet, mais finalement, est-ce que les garçons ont tort d'être des garçons?
Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être au niveau des gouvernants, on vous parlera de la discrimination positive. Il faut le dire, c'est vrai, comme on le dit généralement, la femme est le sel de la société, sinon de l'humanité. Et c'est également un fait que depuis un moment, le gouvernement togolais s'emploie justement à favoriser l'émergence de la femme, la protection de la femme et de la jeune fille, et donc par conséquent justement la scolarisation même de la jeune fille, ce qui est tout à fait normal. Mais fondamentalement, j'ai une autre vue, n'est-ce pas, du sujet. C'est vrai que Michel l'a dit, évidemment, quand on s'emploie de la sorte en investissant justement dans la scolarisation de la jeune fille, c'est que ça s'inscrit justement dans la vision du gouvernement. Mais personnellement, moi, je pense que d'abord, pour moi, certes, comme vous l'avez dit, la discrimination positive, elle est là, ce n'est pas une émanation du Togo, mais dans ce cas précis, je pense que honnêtement, on pouvait faire mieux. D'abord, je suis un peu perplexe de constater que c'est grâce aux partenaires en développement comme la Banque mondiale que le Togo soit amené justement à supporter cette vision-là. Pour moi, nous sommes quand même en 2025. Si on va distribuer des cahiers, des crayons, des stylos aux élèves, même si ce n'est pas aux élèves togolais dans leur globalité, on n'a pas forcément besoin de la Banque mondiale pour le faire.
Mais c'est aussi une question de moyens.
C'est aussi une question de moyens, je ne refuse pas. Mais quand même, on est un État. On est un État et si on a forcément besoin de la Banque mondiale pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants, je crois qu'il y a un problème. Mais au-delà de ça, j'estime également que, honnêtement, vous savez, l'État n'a pas forcément besoin de sortir de l'argent pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants. L'État, c'est de chercher à mettre des mécanismes en place justement pour accompagner cette vision de scolarisation de la jeune fille. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du code de la famille, il y a déjà une bonne part qui est réservée à la promotion de la femme. Et ces dernières années, il y a également tout un arsenal juridique qui a été mis en place justement pour protéger la jeune fille, surtout dans le cas scolaire. Hier, ces enseignants qui facilement lorgnaient les jeunes filles, ce n'est plus d'actualité. Vous savez qu'avec l'arrivée du ministre Kokoroko à la tête de ce ministère, depuis un moment, si vous êtes un enseignant et que vous voulez lorgner une fille qui est votre élève, vous savez ce qui vous attend derrière. Et au-delà de ça, également, les camarades et garçons qui également, je sais pas, par la foule de la jeunesse, hypothèquent l'avenir de la jeune fille. Donc, pour moi, l'État, c'est le mécanisme institutionnel qu'on met en place justement pour protéger la jeune fille. Et je crois que ça doit s'arrêter là-bas, logiquement. Mais quand on est amené peut-être à aller au-delà des mécanismes institutionnels, juridiques, pour maintenant mettre de l'argent à disposition pour acheter des fournitures à distribuer aux gens, quelque part je me dis, mais est-ce que l'État s'est affaissé de la sorte? Pour moi, on peut se passer de ça, se résumer justement aux mécanismes institutionnels et juridiques pour servir de garde-fou. Maintenant, quand le cadre est là, mais les parents qui travaillent, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur informel, ils devraient logiquement gagner leur vie, ne serait-ce que pour acheter des fournitures à leurs enfants. D'accord. Mais quand l'État le fait à la place des parents, pour moi, c'est que c'est un indicateur clé que socialement, ça ne va pas trop bien payer.
D'accord, oui, mais Ambrose, est-ce que vous aussi, vous avez la même impression, puisque c'est vrai, certains observateurs ont évoqué ce sujet, qu'il faudrait quand même que l'État travaille plus pour mettre les populations surtout à l'aise, et là, ce sont les parents même qui vont acheter alors des fournitures alors aux élèves, pas que l'État vienne alors apporter cet appui.
Oui, d'abord, en le faisant, ils se ridiculisent. L'État, le président, tout ça là, tout l'entourage là, ils se ridiculisent. Moi, quand j'ai vu les images, d'abord, tu vas comprendre que c'est les mêmes images qui circulent. Quel est le devoir d'un gouvernement? Le devoir d'un gouvernement, c'est de chercher à améliorer les conditions de vie des populations. Et en plus, il ne faut pas chercher toujours à donner du poisson aux gens. Il faut plutôt donner la meçon, le filet, pour aller pêcher. Nous sommes dans un contexte où on a l'impression qu'ils n'ont plus rien à proposer. Patiak Bogwa. C'est-à-dire que quand tu prends le coup-coup, tu lances le coup-coup, ça te revient, sans rien produire là-bas. Il faut jeter le coup-coup, mais tu es toi-même parti. Parce que tu risques même de t'abîmer les mains. C'est ce qui se passe avec ce. Ailleurs, c'est les associations qui gèrent ces histoires-là. Au mieux des cas, la femme du président, qui a une ONG ou il y a une fondation. Au Togo, vous savez, on mélange les choses. Hein. C'est-à-dire que, on a l'impression que, je vous dis que, Pachapo, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à proposer. Donc, tout ça là, c'est du cinéma. Et chacun veut être visible pour qu'on dise que, ah, moi aussi, je fais quelque chose pour être reconduit ministre. Moi, ça me fait, j'ai honte quand je vois ça. Ça me donne sincère. Je ne refuse pas ce qu'ils font, c'est une bonne chose. Je dis, il y a des femmes autour du président. Il y a le ministère des Affaires sociales. C'est le rôle du ministère des Affaires. Bon, que veut-on que le ministère des Affaires sociales fasse?
De l'action sociale.
L'action sociale, c'est son rôle en premier dans un gouvernement. Mais vous dérangez les ministres, quand j'ai vu certains ministres, j'ai dit, ah, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que j'ai vu des ministres qui certainement n'aimeraient pas être là-bas. Mais ça aussi, c'est des tests qu'on est en train de le faire. Il faut les envoyer pour voir s'ils vont aller. Je n'ai pas fini.
Oui, mais non.
Ils attendent pour voir s'ils vont aller au gouvernement, tout ça là. Mais c'est se ridiculiser. Donner tout au ministère des Affaires sociales. S'il y a des femmes autour du président qui veulent faire, ils n'ont qu'à le faire. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime faire des choses sans trop de bruit. Parce que quand ça donne trop de bruit là, c'est encore une campagne déguisée. Et ils vont dans les fermes pour dire que ah, c'est uni toujours, uni toujours, uni toujours. Le Togolais sait que c'est uni qui a l'argent. C'est uni qui a le gouvernement. Les opposants n'ont pas d'argent. Toi et moi, on n'a pas d'argent.
Merci Ambroise. Oh. Jean-Le Gapoulerini, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux conférences studio, aux invités, à tous ceux et celles qui nous écoutent.
Nous sommes en train de parler alors de cette distribution alors de kits scolaires initiés par le gouvernement. Vous avez vu quand même qu'il y a tout un tollé où ça a été fait tabou battant. Est-ce que vous comprenez quand même ce tollé qui est fait autour de la chose?
Dire que je comprendais le tollé, pas exactement, mais moi je veux revenir sur un aspect. C'est vrai que Ambroise et Magloire ont effleuré en partie ce que j'allais dire. Il est vrai qu'à l'intérieur du pays, ce n'est pas facile pour les populations vulnérables. Je vous dis, il y a plusieurs enfants qui viennent à l'école sans pouvoir même avoir un cahier dans le sac. Ils viennent et parfois c'est les enseignants même qui doivent se battre pour leur trouver de quoi écrire, voilà, les bics et tout ça. Et permettre à 100 000 jeunes filles, 100 000 filles d'aller à l'école, c'est une bonne chose. Mais là, moi, j'ai une autre question. En écoutant certains reportages, notamment sur la chaîne Mère, on nous a dit quelque part que c'est une initiative personnelle du chef de l'État. Ce qui, moi, à un moment donné, a semé un peu de confusion dans mon esprit. Quand, après, on a compris qu'en fait, c'est des bailleurs de fonds qui ont mis les moyens pour que cela soit...
La Banque mondiale.
Mais pourquoi les gens disent initiative personnelle du chef de l'État? Moi, je trouve qu'on rabaisse le chef de l'État.
Ah, si.
On le rabaisse
le président du conseil.
Je suis retourné dans la catégorie publique.
Le président du conseil est content là.
On le rabaisse quand on dit que c'est une initiative personnelle. Il est à son poste pour permettre d'autonomiser les familles, pour permettre à ces familles d'avoir un pouvoir d'achat fort et prendre soin de leur famille. Ce n'est pas l'idée de distribuer ces choses. Comme Ambroise l'a dit tantôt, soit c'est les associations ou soit c'est une fondation qui le fait. Et moi, j'ai des questions aujourd'hui. L'État est amené à demander aux partenaires de l'appuyer. C'est qu'en fait, la pauvreté n'a pas reculé dans notre pays. On doit retourner, vérifier nos indices. Ce qu'on nous dit depuis des années. Si aujourd'hui, l'État même doit négocier pour que les gens puissent avoir des fournitures scolaires, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai un autre aspect que je veux évoquer.
Rapidement.
Nous avons vu la ministre Sandra Johnson, quelqu'un m'a posé une question à laquelle je n'ai pas pu donner une réponse. Il me dit, on nous avait dit qu'elle est secrétaire du président du conseil. Mais la semaine dernière, on a nommé un secrétaire général du gouvernement. Sachant que nous sommes dans une 5e république qui parle de régime parlementaire. Et que le conseil, en fait, c'est le conseil des ministres. S'il y a un conseil, il y a un secrétaire général du conseil et du gouvernement qui est nommé, alors quel est le lien? Pourquoi doit-on encore avoir un secrétaire du président du conseil? Est-ce que la présidente du conseil est différente du secrétariat général du gouvernement? C'est une question que aujourd'hui personne n'arrive à répondre. Parce qu'on ne comprend pas, on a comme l'impression qu'il y a un chevauchement, un problème juridique.
Une assistance personnelle.
Soit une assistance personnelle, comme on le dit. Parce que quand on la met en vedette, ça sème la confusion dans l'esprit de plusieurs. Or, nous avons également la présidence de la République, différente de la présidence du Conseil.
D'accord.
Michel,
vous avez aspiré à le temps.
Oui. Non, moi, je m'en voudrais si le pays, le Togo, n'allait pas sur ce chemin parce que. Depuis 2015, le projet existait. Il y a des pays comme le Sénégal. Nous ne dépassons pas le Sénégal. Les pays comme la Gambie, le Mali, la Mauritanie, et le Burkina Faso et autres. Donc, c'est des fonds qu'il faut aller chercher. Le Togo, même si c'est vrai, peut-être que, comme le disait Jean, les indices de développement, peut-être nous avons des problèmes comme les autres. D'accord. Mais quand il y a de l'argent qui traîne ailleurs, il faut qu'on aille le chercher pour le pays. Moi, le pays, si le Togo n'était pas allé, j'allais dire le Togo est orgueilleux. Pourquoi? Depuis 2015, le projet-là existait et que le Togo n'était pas. C'est en 2022 que le Togo a adhéré à ce projet-là. Et moi, je trouve que c'est responsable.
D'accord.
Et puis, cela met fin. Parce que ces derniers moments, vous avez vu, par les années passées, à l'approche de la rentrée, vous allez voir des gens, des ministres, des DG qui distribuent 3 bancs par ici que c'est le chef de l'État au nom du chef de l'État, 5 cahiers quelque part, et choses là. Cette année, si vous avez fait attention, ces choses là, je pense que sont en train de disparaître, peut-être pas les temps qui courent, on a mis en garde aux gens, les gens font extrêmement attention. Et donc avec ce projet là, moi je trouve que c'est le Togo a bien fait d'aller chasser les fonds à l'extérieur pour venir injecté dans l'éducation de la jeune fille.
Merci, voilà. Merci Michel. Oui, Magloire, c'est vrai qu'à la une de votre journal, vous reveniez sur l'agriculture, vous écrivez « Suite Togo, production agricole, sale temps en perspective ».
Oui, oui, sale temps en perspective, et c'est ce que nous annonce justement l'Agence nationale de météorologie du Togo, qui avait convoqué la presse justement pour l'informer justement de ses projections en termes de temps de météo. Alors, ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que l'Agence nationale de météorologie du Togo annonce que selon les indicateurs, eh bien, le sud du Togo, notamment la région des plateaux, la région maritime, connaîtra justement un retard de pluie qui fait que la saison sera très courte, la petite saison pluvieuse sera très courte, et normalement selon l'ANAMET, la saison devrait aller jusqu'au fin novembre, mais sauf que la pluie mettra du temps à arriver et que ça allait partir encore plus tôt. Ce qui fait que, comme conséquence, les productions agricoles auront des difficultés parce que seront en manque de pluie. Et selon les chiffres, en réalité, l'ANAMET nous informe que la quantité de pluie qu'on aura entre, disons, début septembre et mi-novembre, c'est inférieur à la quantité qu'on avait. C'est la plus faible quantité sur les 30 dernières années. Ça voudra dire que c'est alarmant. Et donc, l'ANAMET informe justement que, comme les projections sont telles, il faudrait que les producteurs réussissent à s'adapter, n'est-ce pas, à ce nouveau contexte, en privilégiant les productions à court terme et surtout à faire de l'irrigation. Mais je crois que c'est important qu'on le rappelle parce que quand on sait que notre pays, c'est un pays essentiellement agricole et que chaque année, on déverse justement sur le marché des techniciens agricoles conformes à l'INFA de Tauvé, il va falloir que justement ces techniciens aident plus le monde agricole à réussir à sortir de ce bourbier-là.
D'accord, merci. Oui, Jean Le Grand Porigny, rapidement, vous parlez de la présidentielle, en Côte d'Ivoire, et vous écrivez à Alassane Ouattara où l'art de vaincre sans combattre. Et vous poursuivez la tentation d'un règne à vie, l'impression d'un scénario déjà écrit, ténor écarté et poids plume en compétition, une nouvelle crise en perspective. C'est une question que vous posez.
Oui, j'ai une question qu'on doit se poser au vu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis quelques jours, parce que on s'est rendu compte que Alassane Ouattara, comme en 2020, a déjà plus d'un tour de passe-passe dans son sac et il a décidé de foncer ad vitam aeternam, garder le pouvoir à vie à travers des contorsions juridiques, le Conseil constitutionnel qui a acquis à sa cause. Ils se sont arrangés aujourd'hui pour écarter les ténors qui pouvaient vraiment faire le poids au niveau de l'opposition, notamment l'ancien président Gbagbo et également Tidiane Thiam qui est un réformateur en vision.
Et il faut faire remarquer que sur la soixantaine de candidatures, il n'y a que cinq qui ont été retenus
notamment, et nous trouvons que ce sont des poids plumes parce que quand on va en compétition, il faut qu'on puisse se mesurer aux adversaires de taille. Mais quand vous avez là, vous utilisez les artifices constitutionnels pour écarter vos adversaires et être le seul ultra favori, je crois que vous êtes là en train de vouloir vaincre, mais sans combattre. Mais il faut aujourd'hui dire que l'opposition ne va pas se laisser faire. Et on est en droit de se poser des questions. À quelle sauce seront mangés les Ivoiriens d'ici le 25 octobre 2025? La CEDEAO est en train de voir les signaux avant-coureurs d'une crise. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une question que tous nous posons. Est-ce que les gens vont toujours attendre qu'on ait joué aux pompiers pyromanes? Quand on sait qu'en 2020, il y a eu des morts. En 2010, quand Ouattara prenait le pouvoir, il y a eu une guerre civile. Les gens sont morts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va encore continuer par toiletter les constitutions et s'arc-bouter derrière des textes qui ne valent pas la peine parce qu'une personne veut rester au pouvoir à vie? Je crois que vraiment, il faut que l'Afrique commence par réfléchir.
D'accord.
Oui, je suis juste à porter du grain à moudre à Jean pour lui dire que tout a commencé au Togo. C'est au Togo, tout a commencé. Ouattara est un menteur.
Moi, je l'ai dit, j'avais rencontré une journaliste ivoirienne qui s'était réfugiée ici en 2011. Quand je lui ai dit comment Gbagbo est parti et comment Ouattara s'est rafistolé pour revenir avec l'aide de la France, de Sarkozy et des Nations Unies, la dame m'a dit, mais tu connais la Côte d'Ivoire. Tout a commencé au Togo. Fon Yassine II aurait répulsé les trois mandats. Personne ne viendra faire du cinéma ailleurs.
D'accord. On va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec Monsieur Nyamiku Kodjo, secrétaire général adjoint de Saint-Banc, et également Monsieur Bombama Pakidam, il est le secrétaire général adjoint Saint-Banc, section banque, et également avec nos confrères journalistes qui sont en studio justement avec moi, puisque nous avons parlé un peu de l'actualité. Vous pouvez vous prononcer également sur ces sujets de l'actualité. C'est sur le 90 86 35 35 91 36 63 75. Et également, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Vous pouvez vous prononcer sur l'actualité et aussi nous sommes revenus sur cette affaire de licenciement de 42 personnes à Sounou Bank. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour monsieur Gado, comment vous allez?
Ça va très bien. Bonjour au plateau.
Oui.
Vous savez, d'après les explications, moi je crois que les responsables de Sounou Bank, c'est des gens pas sérieux. Hein. Je ne veux pas dire que c'était Sounou. Parce que c'est Togolais là. Mais c'est nos prêts. Et en plus, je ne respecte pas les ministres. Là, franchement, c'est des gens mettre hors du pays. Franchement, ils ne sont pas venus pour aider le Togo. C'était Sounou. Secondo, le gouvernement dismise des kits aux jeunes filles. Et c'est sur toute l'étendue du territoire. Et c'est sur la tombe enceinte. Ils vont reprendre l'équipe. Merci, bonne journée.
Merci, Monsieur Gado, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75 90 45 78 57. Là, vous pouvez nous écrire. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pascal.
Monsieur Mawena.
Oui, Monsieur Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord, allez-y.
Salut, le plateau. Je salue votre invité aussi.
Oui.
Monsieur Pascal, ce que l'invité a raconté du début jusqu'à la fin, ça ne nous étonne pas. C'est exactement la manière qu'on dirige dans ce pays. Quoi. Les gens travaillent, la population travaille, la minorité s'enrichit. Ceux qui ne font rien, ils s'enrichissent. Et c'est exactement la même chose qu'on nous afflige. Quoi. On nous met dans la pauvreté, on nous distribue des miettes, on court derrière eux. C'est ça qu'ils veulent, quoi. C'est ça qui vous regardez la manière de distribuer les kits pour les enfants. Ça veut dire quoi? Un État. Et avec ça, on va faire les décisions du président, de unir, parti unis, les cahiers de parti unis pour distribuer aux gens. Ça veut dire quoi? À l'air, là, nous sommes là, parce que M. Pascal. Parce qu'il faut que ça change dans ce pays, quoi. M. Pascal, c'est trop. Bonne émission.
Merci, Monsieur Mawena, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse, justement, de ce jeudi. Bonjour, Canal FM. J'aimerais demander aux invités de Sounou Bank que depuis qu'ils ont commencé les négociations par rapport aux réintégrations ou à la réintégration des employés licenciés, ils ont trouvé amélioration. Merci. Je pense quand même qu'ils ont donné déjà une réponse à cette question hein, au cours de leur intervention ici. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, et vous?
Ça va aussi. Votre nom, c'est...
Salut, le plateau.
Oui, votre nom?
C'est Ayao de Zangira.
Ayao de Zangira. Allez-y, Ayao.
D'accord. Je voudrais jeter des fleurs, monsieur.
Pardon? Allô, Ayao? Il est parti. Ah là là, décidément, je pense que il peut. Ayao, vous pouvez revenir 90, 86, 35, 35. Allô?
Non, mais c'est... Bon, pour les invités de Sounou Bank là,
franchement, c'est Sylvain.
Je pense que peut-être elle a un autre problème. Elle a mal au ventre et puis elle vient de lui dire que c'est la tête. On ne peut pas intervenir. Elle n'est pas mis en état de battre dans la tête directe. Pour autant de la tête d'épargnant, de toutes ces histoires-là. Et puis la banque populaire. Et puis, combien de temps cette banque, ce nous banque à faire puis, elle vient nous rabattre les oreilles avec toutes ces histoires-là. Quand moi, j'ai une société et je viens dire à mon enfant, il y a un vieux que je vais licencier. Alors que c'est à peine un an, il va rentrer à retraite. Mon enfant va me traiter de pied de quoi. Franchement, cette banque n'a qu'à prendre.
Merci, monsieur Sylvain, hein, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM. S'il était donné de choisir, je suis convaincu que les Togolais préféreraient Ouattara avec ses réalisations. De loin, on a l'impression que Ouattara est vomi par les Ivoiriens, mais il faut y être pour comprendre que majoritairement, les Ivoiriens sont pour le monsieur. C'est monsieur Baba qui nous écrit. Allô?
Pascal, bonjour.
Bonjour, Basile, comment vous allez?
Avec Togolaisement.
D'accord, allez-y.
Bon, on ne demande pas ce genre de bonnes œuvres-là au gouvernement. Ce qu'on lui demande, c'est de cesser de faire souffrir les Togolais en les soumettant à quelque chose qui n'existe pas au monde. Vous êtes là? Vous nous vendez tout cher dans le pays, plus que dans tous les autres pays au monde. Vous avez éparpillé les péages un peu partout sur le territoire. Vous payez quelque chose aux travailleurs qui ne ressemble pas à ce qu'ils doivent avoir. Mais ce qu'on vous demande seulement, c'est de faire comme les autres. Et les parents même peuvent se charger de supporter leurs enfants. On n'a pas besoin de venir distribuer des kits scolaires et encore quels kits? Les kits à l'effigie de UNIS.
Non. Mais Basile, allô Basile.
Oui.
Est-ce que vous avez vu les kits?
Non, s'il vous plaît.
Et il faudrait quand même pas qu'on fasse alors d'amalgame, s'il vous plaît. Et puisque vous le dites alors dans une émission de grande écoute.
Ah non, bon, au fait, ça, ce n'est pas un problème. Moi, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai entendu.
Mais vous avez entendu et vous n'avez pas vérifié, Basile. Merci. Ah. Merci pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Vous m'écoutez?
Moi, je vous écoute. Bonjour.
Bonjour. Et merci pour l'intérêt que vous accordez à la distribution de kits scolaires. Vous avez à l'appareil Zankbekoufi. Je suis le chargé de communication du ministère de la Planification. Eh bien, merci aux confrères en studio pour l'intérêt du sujet. Au fait, le projet Suède, il faut entendre le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique en Afrique subsaharienne. C'est un projet sous-régional qui intéresse beaucoup de pays. Et le Togo fait partie de ces pays-là. Et l'objectif, c'est d'accroître l'accès des adolescentes et des femmes aux opportunités éducatives et économiques. C'est l'un des objectifs. Et là, quoi de plus normal d'apporter des kits aux jeunes filles de sur toute l'étendue du territoire, pas toutes les filles des cantons sélectionnés. Et ma foi, il faut dire que c'est la Banque mondiale qui a financé, pas seulement au Togo, mais la particularité, c'était 50 000 kits. Et c'est le PC, le président du Conseil, qui a voulu porter la barre à plus de 100 000 filles qui ont bénéficié. Et la fois passée, ceux qui en avaient amené, les journalistes, et ils disent, Madame le ministre l'a réitéré, c'est la quantité qui est portée à plus de 100 000. Il y avait les reporters. La particularité aussi, on veille maintenant pour que la distribution soit effective sur tout le territoire, avant bien même les institutions soient données, avant même la rentrée scolaire. Et c'est là où le ministère de l'Enseignement s'achève actuellement.
D'accord.
Merci.
Merci, monsieur Zampé, Kofi.
Oui, et je me dis que, bon, parmi vous là-bas, parce que la fois passée, quand j'avais amené les journalistes sur le terrain, il y a certains même qui avaient envie de demander au moins et nos kits. Voilà, je parie que même au studio, si on met des kits à votre disposition pour vos enfants, vous serez aussi intéressé. Mais cette fois-ci, c'est pour les cantons.
Mais merci beaucoup, Monsieur Zanté, pour votre intervention. Et si c'est un fonds que le Togo est allé chasser au niveau de la Banque mondiale, parlant de kits scolaires, pourquoi dire encore que c'est une initiative personnelle du PC? C'est Nestor qui nous écrit depuis Anguera. 90, 86, 35, 35. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Bonjour.
Allez-y.
Bon, oui, si cette initiative n'a pas été prise, est-ce que le PC va compléter? On peut dire que l'animal qui court, c'est lui qui réveille l'animal qui dort. Et je pense que c'est une question de prévision. Gouverner, c'est prévoir. Moi, ma préoccupation, je ne sais pas si tous les journalistes sur le plateau étaient au courant, c'est qu'il y avait une structure qui a été créée par le président de la République d'alors. C'est une structure des personnes démunies, dirigée par Mme Katanga. Est-ce que nous avons. Quels sont ces résultats-là? Parce que c'est des choses qu'il faut contrôler sur le terrain. On nous a dit qu'il y a des personnes démunies dans le pays. On a cité certaines régions qu'on veut jeter encore ces kits-là encore à certains cantons. Alors, cette chose-là. On voit le commencement et la fin, c'est fou. C'est ça qui fait la République. Quand il n'y a pas la communication, c'est dangereux. Vous voyez que mon président vient de définir les choses maintenant. C'est le gouvernement qui va sortir pour dire ce qui se passe sur le terrain. Si les gens, si les journalistes, si bien les gens vont communiquer là-dessus, mais il y aura du désordre. Pas de communication, c'est dangereux. C'est la communication qui est la mère de la politique.
D'accord. Merci Pélé. Kiki, nous avons quelques minutes. On peut recevoir notre dernier auditeur. C'est bien ça, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. On reçoit notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre nom, c'est?
Je suis Mathieu de Yokoué.
Mathieu, vous nous écoutez depuis Yokoué. Allez-y.
Je salue tout le plateau.
Et le plateau vous salue.
Je salue Don Boma et son camarade. Aujourd'hui, vous avez commencé par le plan de résistance.
Mais tout à fait.
Parce que le dossier.
Non, mais aujourd'hui, il n'y a que des plans de résistance, c'est pour cela.
Oui, mais le plus gros, c'est dont
d'accord, vous avez commencé. D'accord, allez-y rapidement, Mathieu.
Je vais rebondir sur ce sujet pour dire ceci. Quand j'ai entendu nos compatriotes parler, je suis tombé en courroux. Je me suis senti comme si j'avais un pouvoir, comment j'allais réagir. Le social est carrément oublié. Et ce n'est pas bien. Mais quand les employeurs se comportent comme ça, nous sommes dans un état de droit. Ça ne doit pas être une gabegie de cette façon-là. L'État doit montrer sa souveraineté. Maintenant, quand on... Pour revenir sur la rentrée scolaire qui est colère, moi je dirais que cette kit qu'on donne aux jeunes filles, on aurait pu diminuer sur le prix des cahiers que l'État même a imprimé, parce que leur cahier coûte plus cher même que les autres cahiers. Maintenant, pour chuter sur les anomalies climatiques,
oui, rapidement.
Surtout du Sud Togo, qui montre que les pluies seront rares. Quelles dispositions l'État prend? Parce que nous savons tous que pour qu'il y ait des pluies abondantes, mais il faut que les arbres soient abondants aussi. Maintenant, quand le prix du gaz est trop cher, comment vous pensez réguler cette situation? Et maintenant, ils n'ont pas été précis. Est-ce que cette... parce que vous avez dit que ça fait 30 ans,
Oui, merci beaucoup Mathieu. Nous serons obligés alors de vous couper toutes nos excuses parce que déjà il y a notre temps qui est avancé et nous allons faire le tour de table hein, rapidement en studio avant de mettre fin à l'émission puisque il y a le journal en langue locale qui doit être fait tout de suite à 12h30. Oui, Monsieur Bomboma, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Oui, je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés. Et avec beaucoup d'attention d'ailleurs, et nous sollicitons leur appui, puisqu'il y aura un moment, nous allons leur faire appel, parce que je trouve que moi personnellement, je parle de moi, et si je suis entrepreneur, par exemple, et je vais au Sénégal, à Abidjan, au Burkina, au Mali, voire au Bénin, je ne crois pas que je peux opter à faire de pareilles choses et puis je vais revenir au Togo vivant. Je ne crois pas. Le Togolais est tellement docile, tellement sérieux. L'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, les caissiers qui ont rendu l'argent, malgré qu'ils ont été licenciés, des centaines de millions, c'est ça l'honnêteté du Togolais, l'intégrité du Togolais. Mais je souhaiterais interpeller l'État ici, que nous souhaitons que les Togolais, désormais, peu importe quel investisseur tu es, que le Togolais soit à la tête et que l'investisseur soit bien en second. Et je viens de voir un message tout à l'heure qui me dit qu'au Gabon, c'est arrêté. Vous amenez l'argent, quel que soit l'argent que vous amenez, vous venez en seconde position.
D'accord. Merci. Oui, monsieur Nyamiku, rapidement, je vais vous demander alors de... Allez-y.
Oui, merci, monsieur Pascal. J'ai un paragraphe du communiqué des dirigeants de Sounou que je m'en vais servir encore aux idées afin qu'ils comprennent le mensonge qu'ils sont en train de formater à Sounou Bank. Parce que dans un paragraphe donné, tiré de leur communiqué, on dit Sounou Bank Togo tient à rappeler que ces réformes, bien que douloureuses, répondent à la nécessité de restaurer la solidarité financière, la solidité financière. Nous tirons que depuis BPEC, depuis la caisse d'épargne, il y avait la solidité financière. Passant par la BPEC, il y avait la solidité financière. Et Sounou Bank n'est rentré dans le capital social que quelques années après. Pourquoi il n'y a plus de solidité financière? Où sont partis les fonds? Ils disent encore la performance de l'institution et surtout sauvegarder l'épargne des 2000 actionnaires togolais. Qui a 2000 actionnaires? Allez voir combien d'actionnaires? C'est les 40 000 que les gens ont payé pour action. C'est les 30 000. Alors c'est ces gens-là qui peuvent constituer une masse importante dans l'actionnariat.
D'accord.
Maintenant,
oui,
ils disent,
non, rapidement,
ils disent
oui, oui,
puisque... en 2023, ils ont payé des dividendes. En 2023, ils ont payé des dividendes et en 2024, vous licenciez les gens. Ça veut dire quoi?
D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Il y a Maglibé qui nous écoute depuis la Belgique, qui a posé une série de questions. Mais toutefois, on n'aura pas le temps nécessaire quand même de vous poser ces questions. Nous sommes à la fin de cette émission. Ambroise, votre mot de la fin.
Oui, moi je souhaiterais, c'est un avis qui peut être aussi une proposition, si 30 personnes partent à la retraite, que Sounou Bank garde les 12 restants. Parce qu'ils sont, il y en a qui ont 20 ans encore devant eux. Même si on leur donne une masse d'argent, ce n'est pas évident qu'ils s'en sortent s'ils n'ont pas un programme défini après retraite. Les 30, ils n'ont qu'à négocier avec les 30. Mais les 12 restants, ils n'ont qu'à les garder. Parce que vous prenez 30 millions. Hein. Mon frère, si tu n'as pas un programme, tu vas dilapider ça, tu es foutu. C'est pourquoi ce qu'ils disent, ce qu'on a renvoyé disent, ils savent que c'est plus compliqué devant s'ils prenaient l'argent. Mais quand on est dans le boulot, on sait que chaque mois, ça tombe.
Ouais. D'accord, merci.
C'est une solution que je propose aux gens de...
Je pense que le message est passé. Oui, Magloire, 30 secondes.
Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Bon après-midi.
Merci beaucoup, Magloire. Oui, Michel, 30 secondes.
Bon appétit à tous ceux qui nous ont écoutés.
D'accord, merci. Jean Legrand, 30 secondes.
Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain Bill Ndaba, qui était artiste de la chanson togolaise. Il a également fait la Chine. Pour ceux qui se rappellent, il a chanté la paix, l'Union africaine en l'an 2000. C'est un monsieur qui a fait un accident en l'an 2020 sur la route Kara-Niamtougou. Et depuis là, il a été secouru par une généreuse personne, mais il est à demi-malade depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Difficilement, il vit. Pour un artiste qui a fait les beaux jours du Togo à l'extérieur, vraiment que quelque chose soit fait pour cette personne. Et je voulais saluer ici deux personnes, notamment M. Lougoutib Moni Michel, cadre à l'UTB, et Kossi Kileo, ancien sergent-chef retraité.
Merci beaucoup Jean Legrand pour le réunir. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Canal D. Michel Yao Tzadza, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Ouara les Vainqueurs. Magloire Kimbiteko, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates. Ambroise Kondro, merci d'être passé dans cette émission. Directeur de publication du journal des Guadiens. Merci à Monsieur Bombaman et Pakidam. Vous êtes le secrétaire général adjoint du Saint-Banque. session banque. Merci d'être passé dans cette émission. Monsieur Nyamiku Kodzo, secrétaire général adjoint Saint-Banque, chargé des AS, c'est ça? Et des actions, voilà. Et merci d'être passé, et des assurances, bien sûr. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.